opinions, c'est Bouchard en parle.
Avec Élisabeth Crête. FM 93.
93.
Oh, là, j'ai hâte. Là, je suis contente. J'avais vraiment, vraiment hâte. Vous vous souvenez comment on a commencé l'émission hier à 14h?
J'ai un peu moins hâte. Moi. Ah, je t'avoue, ah, quand on parle d'hypnose, je file jamais
au compte de trois. Je...
Non, c'est beau, c'est beau. Merci.
Hier, Jonathan,
est-ce qu'on peut fermer son micro, s'il vous plaît?
C'est moi qui suis genre.
Hier, à 14h, on a commencé l'émission, puis on s'est mis à parler de bibitte, je pense. On parlait du fait que, bon, Alex avait des chenilles autour de sa porte d'entrée. Puis on s'est mis à parler d'un paquet d'affaires. Et là, Alex nous a avoué que quand il était jeune, il avait une peur bleue des bibittes, mais au point où ça l'empêchait vraiment au quotidien de profiter de la vie pleinement. Là. Il y avait une mouche dans ta chambre le soir que tu disais, ça t'empêchait de dormir au point qu'il fallait tuer la mouche sur le champ, sinon c'était comme fini. Des fois, des fêtes d'amis quand tu étais jeune, des fois tu y allais pas parce que ça allait être à l'extérieur puis aller avoir des bébites. Fait qu'on parle vraiment d'une peur qui t'empoisonnait la vie, là, carrément. Et on a appris avec surprise que ton problème s'est réglé avec une thérapie d'hypnose.
Yes.
Puis j'étais très surprise parce que dans ma tête à moi, l'hypnose faisait partie de la catégorie, là, un peu genre l'acupuncture. Là, c'est un peu ésotérique, les gens y croient pas vraiment. Bon, on en parle, c'est un petit peu tabou de parler d'hypnose. Pourtant, moi, c'est quelque chose à laquelle je crois beaucoup, mais je pensais pas qu'on pouvait l'expérimenter de cette façon-là puis que ça fonctionne. Et avec le témoignage d'Alex, finalement, on est parti pendant 20 minutes puis on a parlé de ça. Et là, on s'est dit, c'est vraiment trop hot, cette affaire-là. Il faut aller parler à quelqu'un qui s'y connaît et qui pratique peut-être des thérapies d'hypnose pour voir quelles sortes de problèmes on peut régler avec ça. Il y a des gens hier qui nous ont écrit en disant « J'ai arrêté de fumer, moi, grâce à l'hypnose. Est-ce que ça fonctionne vraiment? » J'ai plein de questions. On va rejoindre mon invité à l'instant. Il s'appelle Anne-Hélène Charret, enseignante en hypnose. Madame Charret, bonjour.
Bonjour, c'est Anne-Hélène Chevrette.
Oh, Chevrette,
ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui de cette approche très particulière, en effet, qui s'appelle hypnose.
Ben là, Madame Chevrette, on va commencer par parler de vous un peu. C'est quoi exactement votre formation dans ce domaine-là?
Ben moi, ça fait très, très longtemps que j'utilise l'auto-hypnose. En fait, je suis musicienne à la base, puis j'ai beaucoup utilisé l'auto-hypnose pour faire de la visualisation pré-examen, pré-audition ou pré-concert. Alors, ça a fait partie de mes routines de pré-performance pendant des années. J'ai eu ensuite besoin de services en hypnothérapie pour un deuil très brutal qui m'était arrivé.
Okay.
Et puis, j'avais eu des services d'accompagnement déjà pendant un petit moment, mais ça plafonnait. Et à un moment donné, c'était ma psychologue qui m'a proposé une approche différente. Et puis, on a fait une rencontre assez longue qui utilisait, entre autres, l'hypnose. Et à ce moment-là, j'ai fait 90% de mes progrès de réhabilitation. Puis j'ai été tellement impressionnée que je me suis dit, ah ben là, je veux apprendre comment ça marche, ce truc-là, c'est vraiment trop fantastique. Par la suite, je me suis formée pour commencer ma pratique en 2012. Et puis, j'ai commencé à enseigner l'hypnose dès 2013. Puis après ça, je suis allée me chercher une formation universitaire en France en préparation mentale.
Wow.
Puis dans cette discipline-là, ben il y a un modèle qu'on utilise qui est de la visualisation et de l'hypnose et de l'auto-hypnose aussi. Donc, j'ai repassé plusieurs fois par cette approche-là de différentes façons.
Okay. Et là, donc, je comprends que c'est chapeauté un petit peu par des psychologues, en fait, qui vont parfois recommander ce type de thérapie-là, dépendamment du patient. Et là, je veux savoir à qui on va recommander ça exactement. L'hypnose. Vous savez qu'il y a des gens qui y croient pas, qui sont pas certains du succès nécessairement, qui juste pour eux c'est vraiment de l'ésotérisme et on croit pas à ça. À qui on va recommander ce genre de traitement là?
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, techniciens en éducation spécialisée, intervenants psychosociaux qui se forment à l'hypnose, donc qui l'utilisent eux-mêmes. C'est un outil parmi tant d'autres dans leur coffre à outils. D'ailleurs, il y en a vraiment dans mes groupes quand j'enseigne. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des personnes qui vont offrir des services comme praticiens en hypnose qui vont traiter, mettons, des problématiques un petit peu plus simples ou légères qui ne demandent pas nécessairement une formation aussi poussée. Il y a même des fois des duos qui se font entre un psychologue et un hypnothérapeute pour travailler conjointement sur une problématique. globalement, si quelqu'un est tellement fermé à l'hypnose, on va pas y recommander nécessairement d'y aller parce que c'est déjà d'aller dans le sens de sa résistance. Par contre, on peut démystifier l'hypnose parce que souvent, les gens, ils connaissent pas exactement comment ça fonctionne. On sait que ça a des effets sur la gestion du stress. On sait que c'est super bénéfique pour se visualiser puis créer des nouvelles avenues dans des moments de transition de vie importants, par exemple, deuil, déménagement, séparation, mise à la retraite. On remarque qu'il y a plein de gens qui se sont sortis de certaines dépendances, par exemple le tabac ou l'alcool ou la technologie ou des dépendances affectives aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un état qui est propice à effectuer des changements qui sont profonds. Dans la vie, on apprend toutes sortes de choses qui nous trottent dans la tête, qui restent des idées qui sont pas intégrées. Okay. Et ce que ça permet, l'hypnose, en fait, c'est de faire une communication entre des idées puis nos ressentis puis nos réactions corporelles. Donc, on peut toucher vraiment à des comportements qui sont très, très automatisés, ce qui est vraiment rare, en fait, dans toutes les approches qu'on connaît maintenant.
Comme quoi, mettons, un comportement automatisé?
Ah, il y a plein de choses, mais par exemple, il y a une personne que j'ai accompagnée dernièrement qui était sollicitée pour aller dans un procès pour récupérer la moitié de la garde de sa fille, par exemple. Et puis, cette personne-là, dans ses automatismes, elle avait beaucoup tendance à se dénigrer, à pas trop croire en elle, à avoir peur de perdre la mémoire de ce qu'elle avait à dire. Okay. Donc, ces trois choses-là qui étaient très automatiques chez elle étaient problématiques dans le sens où là, il fallait qu'elle exprime son point de vue, qu'elle soit très solide aussi dans ses convictions, puis qu'elle puisse avoir accès facilement à tout ce qu'elle avait mémorisé dans ce qu'elle avait à dire. Donc, un travail en hypnose peut permettre que ce qu'elle avait envie d'être et d'incarner à ce moment-là, ça puisse devenir réalité concrète, sentie dans les émotions, puis vécue dans le corps.
Ça marchait?
Ben ça a marché, elle a gagné sa procédure. Ah. Elle est vraiment contente. Fait que ça, c'est un exemple. Mais c'est sûr que moi, je travaille beaucoup avec des musiciens qui vont gérer du trac de la scène, qui vont parfois s'auto-saboter sur scène tellement le niveau d'anxiété de performance peut monter fortement, puis leur faire perdre leurs moyens. Donc là, on fait plus de la gestion d'anxiété précompétitive. Puis on peut jouer aussi sur...
Puis concrètement, dans le bureau, là, une séance d'hypnose, comment ça fonctionne? Mettons que j'arrive dans le bureau pour un problème X, par exemple, arrêter de fumer.
Ou arrêter de manger des chips.
Oui,
dans
c'est
ton
ça.
Cas.
Je vais y venir un petit peu plus tard. Je vais y venir un petit peu plus tard. Mais là, mettons que j'arrive dans le bureau puis je suis devant vous. Là, est-ce qu'il faut que je ferme mes yeux? Là, vous allez me parler puis moi, je vous dois répondre. Comment ça fonctionne exactement?
Bon, au début, c'est certain qu'il y a une phase où on appelle ça de l'anamnèse, mais c'est le questionnement initial où on apprend à connaître un peu comment le sujet fonctionne, c'est quoi ses objectifs, puis est-ce que on est dans les limites aussi de ce qu'on peut faire avec une personne par rapport à la loi 21 sur la psychothérapie qui protège les gens les plus vulnérables maintenant. Donc, il y a quand même un bon questionnement de 15 à 20 minutes au début pour placer un peu l'objectif de cette démarche-là. Il y a souvent au moins 5 à 10 minutes d'explication par rapport à comment ça va se dérouler, l'hypnose, dans ce cas-là. D'ailleurs, il faut savoir qu'il existe beaucoup de différentes façons d'aller en transe hypnotique et qu'un bon thérapeute va être capable de vraiment choisir les meilleures méthodes puis les adapter à son sujet pour que ça demeure agréable puis accessible pour lui. Il faut aussi dire que le degré de confiance qui existe entre la personne qui suit la rencontre et puis le thérapeute est vraiment importante pour qu'il y ait un certain lâcher prise puis un certain laisser aller. Parce que dans le fond, c'est les suggestions qui vont être prononcées en transe hypnotique qui vont avoir un impact positif sur le changement. Donc, si la confiance n'est pas là, ben il n'y a pas grand chance que ça fonctionne. Okay. Ça, c'est sûr.
Okay.
Maintenant, après, il va y avoir une phase plus d'induction où on va vraiment induire un état de conscience modifié, puis dans lequel on va retrouver des ondes cérébrales qui sont différentes que dans l'état de veille. Par exemple, plus d'ondes alpha qui sont présentes aussi dans le sommeil paradoxal. Tu sais, c'est ce moment-là où quand on rêve, on a les yeux qui se secouent derrière les paupières parce qu'on rêve. En fait, on pourrait dire que l'hypnose est à l'éveil ce que le rêve est au sommeil, parce qu'on a des connexions neuronales vraiment plus nombreuses, plus variées, plus de créativité, puis une meilleure adaptabilité aussi.
Puis est-ce qu'on est couché ou on est assis sur une chaise, mettons?
Il y a quelques approches qui enseignent encore l'hypnose couchée avec des scripts qu'on lit, etc., mais c'est c'est une méthode qui est assez ancienne, qui est de moins en moins pratiquée maintenant. On peut pratiquer l'hypnose assis, debout, on peut bouger en cours de route aussi. Et souvent, on va utiliser des phénomènes hypnotiques, par exemple, une lévitation de la main, comme une main qui se soulève dans les airs de plus en plus, à mesure que le changement est en train de s'installer. On peut aussi avoir un signaling, c'est-à-dire un doigt qui va répondre pour confirmer que les parties les plus profondes de l'inconscient sont d'accord pour l'installation du changement. Tout ça, c'est des techniques qu'on apprend dans les cours d'hypnose qui sont assez variées puis qu'on peut agencer selon le sujet qu'on a avec nous. Donc, il n'y a pas une séance d'hypnose qui est pareille, mais il y a quand même des choses qui peuvent se ressembler un peu. Le sujet peut répondre verbalement ou répondre plus par des signaux pour dire oui ou non, mais c'est toujours en interaction avec la personne qui guide.
En général, pour induire un changement, ça prend quoi? Une, deux, trois, quatre séances ou ça peut se faire dès la première séance? Souvent, la plupart des problèmes sont réglés?
Ça serait vraiment le fun que je puisse vous répondre à cette question-là, parce que les gens se posent beaucoup cette question-là. Moi, j'aime bien dire que réserver trois séances pour commencer, c'est vraiment intéressant, pour faire quand même le tour d'une problématique. Maintenant, il y a des problématiques qui sont plus complexes ou plus rattachées à d'autres aspects qu'on n'avait peut-être pas vus au départ. Donc, en fait, il va y avoir une première phase de travail sur un premier objectif, puis comme il est relié à un autre objectif, ben il va y avoir d'autres séances qui vont s'adresser plus à l'autre objectif qui est comme rattaché à ça. Donc, c'est très difficile de promettre un nombre de séances. C'est quand même dans la catégorie des thérapies brèves. Donc, on est dans de l'intégration de changement au présent puis de la façon la plus efficace possible.
OK. Madame Chevrette, maintenant, je vais vous nommer des problématiques et vous allez dire si, à votre connaissance, ça pourrait fonctionner avec l'hypnose. Soit parce que vous l'avez vu ou vous connaissez quelqu'un qui l'a fait puis ça a fonctionné. Alors, parce qu'il y a beaucoup de questions d'auditeurs qui se posent des questions précises par rapport à une problématique. Alors, on va en nommer quelques-unes, puis on va être capable de faire le tour. Donc, ben premièrement, une problématique liée à un trouble alimentaire, que ce soit boulimie, anorexie ou juste moi, mettons, qui mange trop de chips puis qui aimerait ça apprendre à me contrôler quand je mange des chips.
C'est sûr que si on va loin dans les pathologies, ça va devoir être en collaboration avec des services beaucoup plus complets parce que c'est des choses assez complexes que l'anorexie ou la boulimie. Par contre, troubles alimentaires plus quotidiens de base, oui, certainement.
OK. Fait que les chips, mettons, ça pourrait fonctionner?
Oui, oui, ça peut.
Ah oui? OK. Bon,
j'ai déjà fait avec, par exemple, dernièrement, addiction Pepsi, là, la personne qui boit vraiment trop de Pepsi tous les jours.
Là, il n'a pas commencé à boire du Coke après, non?
Non, non. Okay. C'est pas ce que je préfère avoir en consultation, mais c'est vraiment possible de le faire. Puis la personne était vraiment très contente et libérée. Puis ben ça l'a quand même fait par ricochet une différence sur son poids après, parce que c'est sûr que c'était relié.
Ouais. Ben oui. Okay. Ben oui. Ensuite, une autre problématique, quelqu'un nous écrit, moi j'ai peur de conduire l'hiver. L'été, ça va, mais j'ai une peur bleue de conduire lorsque c'est l'hiver. Est-ce que ça pourrait aider pour ça?
Oui, tout à fait. Donc là, on est plus dans la gestion de stress. Donc, c'est une personne qui a un niveau de stress qui est trop élevé. Cette activité-là. Donc, oui, ça peut tout à fait s'améliorer grandement avec l'hypnose.
Excellent. Pour des problèmes de timidité maintenant.
Ah oui, ben c'est relié à la confiance en soi. Okay. Donc ça, c'est sûr que c'est un bon sujet. D'ailleurs, on a beaucoup ça dans le volet préparation mentale, hein, tu sais, toute l'exposition au regard de l'autre, performance, etc.
OK. Puis la prochaine, ça va peut-être vous sembler un petit peu drôle, mais c'est une réelle question d'auditeur, puis je vais la nommer pour des problèmes érectiles, par exemple.
Ben oui, ça peut être utile. Maintenant, il faut quand même pas mettre de côté le côté plus médical de la chose. Donc s'il y a une maladie, s'il y a quelque chose à traiter au niveau d'une dysfonction réelle physique, ben ça va pas nécessairement tout régler. Par contre, ça peut aider à vivre mieux avec cette situation-là. Puis parfois, quand il n'y a vraiment pas nécessairement de conditions physiques reliées à ça, ça peut faire de très beaux progrès.
C'est ça, parce que quand c'est physique, il y a une certaine limite qui est là. Mais par exemple, des gens qui ont un problème, hier, il y avait des gens qui nous parlaient de problèmes de dos, des douleurs. Est-ce qu'au niveau des douleurs, ça peut aider?
Ben, ce qui est intéressant, ces temps-ci, dans un de nos groupes de praticiens, on a une ostéopathe, puis on a déjà eu des physiothérapeutes aussi. Et ils viennent dans les cours d'hypnose pour ajouter une dimension plus suggestion, parce qu'ils se sont rendus compte que parfois, il y a quand même une dimension psychosomatique dans les douleurs physiques. Donc, eux, c'est sûr qu'ils sont à même de vraiment valider sur le corps qu'est-ce qu'il y en est, mais d'ajouter une dimension plus hypnotique à tout ça pour aller au bout de ces blocages-là. Okay. Donc, parfois, c'est vraiment utile.
Pour des problèmes de bégaiement.
OK. Ça, je connais quelqu'un qui a fait d'énormes progrès en se servant, entre autres, de l'hypnose. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas besoin d'aller en orthophonie ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Mais dans son cas, c'est pas disparu complètement, mais ça a fait quand même des très beaux progrès.
OK. Pour des troubles un petit peu, des chocs post-traumatiques, ça peut être une agression vécue lorsqu'on mm-hmm. était jeune ou pour les gens de l'armée, là, par exemple, qui sont allés à la guerre. Est-ce que ça peut aider?
Ben, normalement, on va coupler l'hypnose avec une autre approche dans ce temps-là et ça prend vraiment quelqu'un de très solide pour guider. Donc, normalement, on va référer avec une approche plutôt en psychologie. Mm-hmm. Ça peut être couplé avec de l'EMDR, par exemple, qui est désensibilisation par les mouvements oculaires. Donc, les deux ensemble font un chouette boulot par rapport à ça.
OK. Pour des craintes reliées, mettons, la peur de l'eau, par exemple, la peur des hauteurs, le vertige, est-ce que ça peut fonctionner dans ces cas-là?
C'est assez courant, je vous dirais.
Okay.
Fait que des peurs de toutes sortes, c'est quand même une bonne partie de la clientèle en hypnose, je dirais.
OK, ouais. Quand même, fait que c'est intéressant.
Problème d'insomnie.
Oui, oui. Insomnie, là aussi, on a des fois une dimension plus physiologique. Là, si au niveau hormonal, c'est débalancé, il faut quand même faire des tests. Par contre, comme l'hypnose, c'est proche du sommeil d'une certaine mm-hmm. façon, c'est quand même une approche qui est très gagnante par rapport à ça, parce qu'on peut induire plus facilement, tu sais, le point de bascule vers le sommeil, là, le glissement vers le sommeil via l'hypnose. Okay. Souvent, on va plus enseigner l'auto-hypnose à ces personnes-là, d'ailleurs, pour les rendre plus autonomes, là.
Madame Chevrette, je veux qu'on parle un petit peu de l'accessibilité à vos services, parce que je vous dirais que si je me fie aux réactions qu'on reçoit en temps réel, il y a une réelle demande pour ce service-là. Est-ce qu'on parle mm-hmm. de services qui sont très dispendieux, qui peuvent être couverts par certaines assurances? Comment ça fonctionne?
La RITMA est une des associations qui va permettre aux hypnothérapeutes ou aux praticiens en hypnose d'émettre des reçus pour fin d'assurance. Donc, c'est sous la rubrique naturopathie. Les gens peuvent vérifier s'ils sont couverts pour ce titre-là. Maintenant, c'est quand même assez onéreux. C'est sûr que ça dépend un peu de comment on voit ça. C'est-à-dire que si ça vous coûte, entre 100 et 150 $ pour une rencontre, mais que ça change une habitude durablement, c'est quand même pas cher payé par rapport aux bénéfices qu'on va chercher.
C'est comme un service mm-hmm. de psychologue, en fait, parce qu'un psychologue, c'est à peu près ça, une centaine de dollars.
Oui, ça ressemble un peu à ça au niveau des prix. Des fois, il peut y avoir des blocs de rencontres qui sont vendus, tu sais, pour avoir un prix forfait, mais ça demeure quand même un service dans lequel il faut investir puis voir ça vraiment comme un investissement.
Et tout à l'heure, vous parlez, parce que vous êtes enseignante en hypnose, vous avez parlé qu'il y a des professionnels qui vont chercher ça comme complément, comme outil. Mais est-ce que ça vous arrive d'avoir monsieur, madame, tout le monde qui décide du jour au lendemain d'aller à une formation comme celle-là? C'est quoi? Est-ce que ça ressemble à quoi un peu le profil des gens qui viennent dans vos cours?
Mm-hmm. Moi, j'enseigne pour l'Arche, donc c'est une école qui est basée à Paris, qui est vraiment plus de type professionnalisation. Donc, on s'en va vraiment sur une maîtrise des outils. Par contre, il y a des cours plus d'initiation à l'hypnose à Coaching Québec, par exemple. Ils vont donner 3 jours d'initiation à l'hypnose et à l'auto-hypnose. Ça, c'est plus léger. Puis, monsieur, madame, tout le monde est vraiment invité dans ce temps-là. Puis, il y a des fois des soirées d'initiation aussi. Donc, ça peut être ça. Mais je vous dirais qu'il y a des gens qui font monsieur, madame, tout le monde au début, puis qui, quelque part, tombent un peu en amour avec l'approche, puis qui font tout le cursus de professionnalisation parce qu'ils sont passionnés puis qu'ils deviennent d'excellents praticiens en hypnose après, là. Ça arrive aussi. Okay.
Puis, Mme Chevrette, si on veut trouver un bon hypnotiseur ou un bon thérapeute pour nous, qu'est-ce qu'il faut regarder? Parce qu'évidemment, comme dans tout autre domaine, il peut y avoir des charlatans. C'est quoi, mettons, les critères là, à respecter quand on veut trouver quelqu'un qui pourrait être bon pour nous?
Au Québec, il y a plusieurs écoles d'hypnose. Okay. C'est assez varié et assez disparate ce qui existe comme formation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des thérapeutes qui sont bons sortis de chacune de ces écoles-là, parce que il y a vraiment des très bonnes personnes qui vont étudier ça, qui ont des belles capacités. Maintenant, ce qu'il faut savoir, à l'Arche, ça a été fondé en 2002. Il y a un centre de recherche. Ils sont constamment en train de vraiment valider tous les protocoles au niveau scientifique. Donc, l'accompagnement est hyper professionnel quand on suit le cursus de l'Arche. Mais c'est nouveau, hein? Au Québec, ça fait juste depuis 2020 qu'il y a ce cursus-là qui est en vigueur. Okay. Donc, c'est en train de bouger et probablement que d'ici quelques années, il y aura de belles choses qui vont se passer justement grâce à cette collaboration nouvelle avec l'Arche. Mais quand on parle à quelqu'un au téléphone par rapport à ce qu'il peut nous offrir en termes de rencontre d'hypnose, c'est sûr qu'il y a le degré de confiance.
Ouais.
Il doit être certifié. Pour la Rythma, c'est 1000 heures de formation. C'est quand même un minimum.
Ben oui.
D'aller en bas de ça, c'est toujours un peu risqué, je dirais.
Parfait. Hey, Madame Chevrette, c'était hyper intéressant. Je vous aurais gardé pendant des heures et des heures, mais je vais vraiment regarder cette option-là. Puis c'est pas des jokes, là. Pour vrai, là, pour arrêter de manger des chips et arrêter de manger des émotions. Si vous me dites que ça peut fonctionner, je vais vraiment regarder cette option-là sérieusement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. Alors, hypnotiquement vôtre. Bonne fin d'après-midi.
Bonne fin d'après-midi. Anne-Hélène Chevrette est enseignante en hypnose. Wow, c'était vraiment intéressant.
Ouais.
Je suis impressionnée par le spectre de possibilités qui s'offre à nous pour régler certains problèmes. Moi, écoute, ça peut régler pas mal n'importe quoi, en fait, l'hypnose jumelée parfois à d'autres types de thérapies.
Et c'est ça. Et ce que je retiens, c'est que là, elle parlait, il y a toutes sortes d'écoles. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas des bons qui sortent de certaines écoles, mais c'est ça. Il y en a qui s'improvisent peut-être
exact.
Un peu. Puis il y a des professions qui sont normées. Celle-là, de ce que je comprends, c'est pas normé comme d'autres professions. On s'entend?
On s'entend.
La seule chose, c'est que si, par exemple, vous consultez déjà un psychologue pour un problème, des fois, de leur en parler, peut-être qu'eux vont dire, regardez, on a eu déjà par le passé en référant à tel thérapeute ou tel autre thérapeute des résultats. Là, au moins, vous allez être sur la bonne track.
Ouais,
vous avez peut-être moins de chances de tomber sur des gens qui s'improvisent.
En tout cas, si jamais vous faites l'expérience en passant, ben, écrivez-nous ou écrivez-moi. Je vais être bien intéressée de savoir c'est quoi vos résultats. Puis moi, je vais vous redonner des nouvelles, mais je vous jure, je vais regarder ça très sérieusement. Je vais le vivre pour vous et vous transmettre les résultats si j'ai arrêté de manger